Zoom Secteur.
Zoom Secteur.
Un podcast, l'officiel de la franchise.
Bonjour à tous, je suis Nicolas Monnier, journaliste pour l'officiel de la franchise. Si vous êtes des fidèles lecteurs de notre mensuel, vous savez que nous analysons et décryptons chaque mois un secteur économique différent. Pour ce nouveau podcast dédié au marché de l'entretien-rénovation des bâtiments, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Desruelles, directeur d'études au sein de l'Institut Xerfi. Vincent Desruelles, bonjour.
Zoom Secteur.
Zoom Secteur.
Choisissez le bon marché pour vous lancer.
Monsieur Desruelles, comment s'est porté le marché de la rénovation en 2021?
Alors, le marché de la rénovation 2021 s'est bien porté, à la fois du côté du logement et du hors-logement, du non-résidentiel. Donc, si on veut un petit peu regarder par segment, dans les deux cas, il y a eu évidemment un effet rebond post-2020, post-confinement, qui a mécaniquement alimenté l'activité. Maintenant, si on regarde même par rapport à 2019, du côté du logement, on était sur une dynamique qui était très favorable. Donc, on a assez largement dépassé le niveau d'activité de 2019. On peut résumer en trois moteurs, si on peut aller assez rapidement. D'abord, un contexte de financement positif, porté par à la fois un excès d'épargne accumulé par une partie des ménages suite au confinement, suite aux restrictions de consommation, donc qui a pu être redistribué vers des dépenses type rénovation. Ensuite, la mise en place de nouvelles aides type MaPrimeRénov, dont on sait qu'elle a rencontré un certain succès en 2020-2021. Après, avec un impact un peu, peut-être, on pourra en discuter après, peut-être plus limité sur les rénovations à impact, mais toujours est-il qu'en volume, le nombre de dossiers a été important. Et enfin, les taux des crédits, crédit conso, crédit affecté travaux, les taux des crédits sont plutôt favorables. Donc ça, c'est le premier volet financement favorable. Ensuite, un environnement global post-confinement aussi qui a été moteur à travers un retour ou un repli sur la sphère du logement, de l'intérieur, lié à la fois au confinement, mais aussi à une pratique plus intense du télétravail. Donc, il a pu nourrir la volonté de mettre en place des travaux de la part des ménages et également un marché immobilier de l'ancien, très dynamique, hein, avec une barre des 1,2 million de transactions qui a été approchée, un nombre très important de transactions qui, on le sait, très souvent donnent lieu à des opérations plus ou moins lourdes d'entretien, de petits travaux, de rénovation. Et enfin, troisième point,
dites-moi,
un effet prix favorable alors sur le chiffre d'affaires du marché, déjà en 2021, et ce sera encore sûrement encore plus le cas là bientôt. Les prix des travaux ont fortement progressé, alors que d'habitude, on est sur 1%. Là, on a approché l'indice qui mesure le prix des travaux, l'IPA, quasiment approché les 5%, qui est très, très élevé, en raison des hausses des coûts de matières premières, notamment, les coûts des matériaux, certaines pénuries aussi du côté de main-d'œuvre qualifiée, qui aussi a conduit à une hausse des prix. C'est sur le côté logement. Oui. Sur le non-résidentiel, on ne va peut-être pas s'appréhender pour longtemps, sinon. Mais la dynamique a aussi été favorable. Un peu moins peut-être, parce qu'on a senti quand même toujours un certain attentisme, notamment du côté de la sphère privée. Peut-être quelque chose qui sera un peu plus favorable par la suite. Il y a des moteurs importants qu'on va peut-être développer.
D'accord. Oui, complètement. Juste, mais alors, dans ce contexte, comment vous voyez évoluer le secteur sur l'année en cours là?
Alors, sur 2022, on pense que le secteur va évoluer encore favorablement. Alors, effectivement, il y a des nouvelles incertitudes qui ont surgi, qui pourraient peut-être venir un peu modérer les scénarios envisagés. Néanmoins, donc on pense que les tendances seront dans l'ensemble favorables. Côté logement, les déterminants un peu structurels qu'on mentionnait précédemment resteront d'actualité. Il y a encore les aides type MaPrimeRénov, mentionné précédemment, des renforcements des obligations, notamment des émetteurs, des certificats d'économie d'énergie, qui seront aussi un facteur de soutien, puisque ces opérateurs qui sont les groupes d'énergie, pétrole, auront des obligations renforcées, donc c'est ce qui va alimenter leur activité pour favoriser les réalisations de travaux de la part des particuliers. On s'attend aussi à une certaine accélération du côté du logement social, puisque les acteurs du logement sont tous confrontés aux interdictions à venir de mise en location des passoires thermiques.
Ah oui, oui.
À partir de, avec une première échéance à 2028. Donc, pour se mettre en conformité, il va y avoir un besoin de réalisation de travaux pour gagner en étiquette énergie, pour pas que les biens concernés sortent du marché. Alors, on peut s'interroger sur le calibrage des aides mis en face pour les particuliers et les bailleurs sociaux. Mais juste sur la partie bailleurs sociaux, qui représentent à peu près 10% des dépenses d'entretien et rénovation du logement, grosso modo. L'effort à mener, disons que leur part globalement est plutôt moins énergivore. Ils sont vraiment dans l'obligation de mener cet effort, hein, sous peine de plus pouvoir émettre des quittances sur des biens détenus. Les biens détenus, donc, ils ne peuvent pas non plus se séparer. Donc là, ça va être un certain moteur de leur côté.
Justement, vous commenciez à l'évoquer. Qu'est-ce qui peut favoriser, justement, d'après vous, la bonne tenue de ce marché? Vous aviez évoqué les primes. Est-ce qu'il y a d'autres leviers de croissance?
Oui. Alors, effectivement, il y a des moteurs qu'on peut qualifier de structurels, hein, sur ce marché. Dans le hors-logement, par exemple, il y a de plus en plus une stratégie de valorisation des actifs par l'excellence en manière environnementale et bas carbone. Donc, il y a un certain mimétisme au niveau des investisseurs institutionnels, foncières, qui sont vraiment tous engagés dans une stratégie, on appelle stratégie ESG, environnementale, social, governance, qui conduit donc ces opérateurs à vraiment mener des opérations de rénovation, de réhabilitation de leur parc pour qu'ils soient le plus efficaces au niveau énergétique. Donc, ce qui nourrit par ricochet effectivement l'activité des entreprises du bâtiment qui interviennent dans ces aspects-là. Autre moteur, la difficulté qui devient structurelle à lancer des projets neufs pour tout un tas de raisons, la raréfaction du foncier, la volonté de lutter contre l'artificialisation des terres, les freins de certaines municipalités, certains segments un peu en type comme le commerce par exemple, un peu en crise existentielle, qui nourrit finalement d'un autre côté cette volonté de reconversion et de réhabiliter les bâtiments existants. Et on voit bien que parmi les mesures du plan de relance, le fonds friche qui a été lancé par le gouvernement pour un peu favoriser les interventions sur des friches urbaines a rencontré un grand succès. Et donc ces opérations de reconversion de bureaux en logement, d'anciens sites publics en bâtiments mixtes. Toutes ces opérations de réhabilitation sont des moteurs pour les opérations de rénovation du patrimoine ancien.
D'accord.
Autre point, le télétravail, qu'on peut voir, qu'on a peut-être un peu mentionné déjà, comme pouvant être un moteur côté logement, bon, un peu marginal, mais aussi côté entreprise, puisque finalement, la façon de concevoir des bureaux change avec une attente vis-à-vis du siège qui est différente parce que c'est plus uniquement un endroit qui est consacré aux activités productives, mais plutôt au travail collaboratif, aux échanges et à la formation d'une culture d'entreprise. Et donc à cette aune-là, les entreprises réfléchissent à la façon de concevoir et revoient la conception et l'organisation, ce qui donne aussi lieu à des opérations de rénovation, de refonte des sièges. Et dernier point, et plus rapidement, ne pas oublier que le vieillissement de la population est aussi une tendance lourde et va aussi alimenter de très nombreuses interventions dans les logements pour permettre le maintien au domicile.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Justement, vous avez évoqué un peu des deux segments, mais entre les particuliers et les entreprises, quel est aujourd'hui, d'après vous, le segment le plus dynamique ?
Oui, alors les deux sont dynamiques. Hein. Là, on a quand même une projection 2022 un petit peu au-delà, où les deux segments sont plutôt dans des tendances un petit peu supérieures à leur tendance de moyen terme. Peut-être le logement est un peu plus dynamique parce que donc c'est celui qui concentre le plus d'aides directes et puis sur lequel les attentes sont plus fortes à travers les obligations qu'on a mentionnées précédemment. Donc oui, peut-être plutôt un peu plus le logement.
D'accord. Et alors justement, dans ce marché de la rénovation et de l'entretien, quelle filière aujourd'hui performe le plus ?
Alors c'est un peu difficile d'identifier vraiment une filière en particulier. Nous, dans nos travaux, on a un petit peu regardé parmi les différentes familles de métiers, notamment de l'artisanat, quelles avaient été leurs performances sur 2021. On n'a pas noté de différences énormes. Peut-être certains segments qui ont un peu plus performé. Je pense notamment à la plomberie, parce que c'est notamment des professions qui est plus mobilisée dans le cadre des changements, des équipements. De chauffage, c'est vrai que c'est eux qui bénéficient de façon plus directe des soutiens publics qui sont assez nettement dirigés vers justement le remplacement des équipements. Donc voilà, les métiers qui sont plus directement concernés par la performance énergétique ont été sur une bonne dynamique, ils sont sur une bonne dynamique, plomberie, génie climatique, etc. Voilà, maintenant, menuiserie également à travers les changements de fenêtres, évidemment.
D'accord.
Après, sur ce marché d'entretien et rénovation, qui est un marché vraiment de très, 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 très grande taille, avec un très grand nombre d'intervenants de tailles différentes, très atomisé, il y a une volonté de structuration de la part de grands groupes. Alors ça peut être des acteurs un peu liés à l'énergie, EDF, Engie, ou qui sont plus sur le côté matériaux, type Saint-Gobain. Et vraiment, on a noté dans nos travaux une volonté de couvrir la filière en étant vraiment prescripteur et intermédiaire. Et c'est pas anodin que ces groupes, les groupes que j'ai cités et quelques autres, se soient positionnés vraiment dans l'intermédiation.
D'accord.
À travers des rachats ou des lancements de plateformes d'intermédiation, travaux, voilà, qui permettent de toucher plus directement les particuliers.
Vincent Desruelles, je vous remercie pour cet éclairage. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, vous pouvez réécouter toutes nos productions sur notre propre plateforme CDI Podcast, ainsi que sur les autres services bien connus de streaming.
Zoom Secteur.
Zoom Secteur.
Un podcast, l'officiel de la franchise.